s'échapper. Il s'échappe. Chut. Une bulle d'un chuchotement hors du temps pour un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi. S'oublier dans les confinements pour mieux s'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi.
Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé un très joli texte de Robert Desnos sur la page de Pascal Farge, qu'elle a bien voulu que je vous partage. Rien ne ressemble plus à l'inspiration que l'ivresse d'une matinée de printemps, que le désir d'une femme. Ne plus être soi, être chacun, poser ses pieds sur la terre avec agilité, savourer l'air qu'on respire. Je chante ce soir, non ce que nous devons combattre, mais ce que nous devons défendre. Les plaisirs de la vie, le vin qu'on boit avec des camarades, l'amour, le feu en hiver, la rivière fraîche en été, la viande et le pain de chaque repas, le refrain que l'on chante en marchant sur la route, le lit où l'on dort, le sommeil sans réveil, en sursaut, sans angoisse du lendemain. Le loisir, la liberté de changer de ciel, le sentiment de la dignité et beaucoup d'autres choses dont on ose refuser la possession aux hommes. J'aime et je chante le printemps fleuri. J'aime et je chante l'été avec ses fruits. J'aime et je chante le printemps. J'aime et je chante l'été, saison dans laquelle je suis née.
Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Shiny floor, slippery feet. Lights are dim, my eyes can't meet. The reflection that turns my images upside down so I can't see. Think you know everything. You really don't know nothing. I wish that you were more intelligent so you could see that what you're doing is so shitty to me. People couldn't count on two hands the amount of times you made me stop. Stop and think why you're being such a dickhead for. Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Stop, no don't show. Just have a think before you. Will you stop? No don't show. Just have a think before you. Will you stop? No don't show. Just have a think before you. Will you stop? No don't show. Will you just have a think before you? My brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. So, why are you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why are you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why are you being a dickhead? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations.
Thank you.
Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Paula Hawkins, La fille du train, qui est un thriller et qui est un livre assez déstabilisant et plus que jouissif. Alors j'espère qu'en extrait, ça va marcher quand même. Vendredi 5 juillet 2013. Matin. Une pile de vêtements repose au bord de la voie ferrée. Un tissu bleu clair. Une chemise, j'imagine. Entortillée dans quelque chose d'un blanc sale. Ce sont probablement des vieux habits jetés, échappés d'un paquet balancé dans un petit bois miteux, un peu plus haut, près de la berge. Peut-être que ce sont des ouvriers qui travaillent sur cette partie du rail qui les ont laissés là. Ce serait pas la première fois. Peut-être que c'est autre chose. Ma mère répétait à l'envi que j'avais une imagination débordante. Tom aussi me le disait. Je peux pas m'empêcher. Dès que j'aperçois des haillons abandonnés, un t-shirt sale ou une chaussure isolée, je pense à l'autre chaussure et aux pieds qu'elle enveloppait. Un crissement strident, puis le train s'ébranle et repart. La petite pile de vêtements disparaît de ma vue et nous roulons pesamment vers Londres, à la vitesse d'un jogger bien entraîné. Quelqu'un dans le siège de derrière le mien, irrité, pousse un soupir impuissant. La lenteur du 8h04 qui va d'Ashtabury à la gare d'Houston est capable de faire perdre patience au banlieusard le plus désabusé. En théorie, le voyage dure 54 minutes. En pratique, c'est une autre histoire. Cette portion de la voie de chemin de fer est une antiquité décrépie en perpétuel chantier, émaillée de deux feux de signalisation défectueux. Au ralenti, le train passe en cahotant près de l'entrepôt, des châteaux d'eau, de ponts et de cabanons, de modestes demeures victoriennes qui tournent fermement le dos au rail. La tête appuyée contre la vitre du train, je regarde défiler ces maisons, comme un travelling de cinéma. J'ai une perspective unique sur elles. Même leurs habitants ne doivent jamais les voir sous cet angle. Deux fois par jour, je bénéficie d'une fenêtre sur l'autre vie, l'espace d'un instant. Il y a quelque chose de réconfortant à observer des inconnus à l'abri de chez eux. Un téléphone sonne, une chansonnette incongrue trop enjouée pour ce trajet. La personne met du temps à répondre et la sonnerie retentit longuement dans l'atmosphère. Autour de moi, mes compagnons de voyage remuent sur leur siège, froissent leur journal et pianotent sur leur clavier d'ordinateur. Le train fait une embarcadée et penche dans le virage avant de ralentir en approchant du feu rouge. J'essaie de ne pas lever les yeux, de me concentrer sur le quotidien gratuit qu'on m'a tendu alors que j'entrais dans la gare. Mais les mots se brouillent devant moi et rien ne parvient à capter mon attention. Dans ma tête, je vois toujours cette petite pile de vêtements au bord du rail, abandonnée.
Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. You and I, we're over. Me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all with us, no matter how hard they are, but one plus one is none. You've been on my mind for a while now, trying to get you off cause this ain't right now. You said it was a vibe for the time being. It was nothing more but I just couldn't see it. This is not a song for the whole world. Felt like it could have been us against the whole world. Baby, you were mine and I was your girl. Whatever happened to the time that we spent sober? I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left. You and I were over. Me me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all with us, no matter how I add it up, but 1 + 1 is none. I've been at this party for some time now, sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about, 'cause you're the one that's always getting too wasted. Now I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh I'm faded. But I don't wanna think about the complicated. Young love got me feeling like I can't get up. Wishing for it, but it never lasts. I thought we'd be together. Oh, it ended so fast. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't no time left, 'cause you and I were over. Me and you are done, 'cause when I wanted to be, you just wanted to run. And though I know it's no one's fault, if I've learned anything at all with us, no matter how I add it up, 1 + 1 is none. No matter how I add it up, I just keep getting none. Oh la 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 la.
Soir. Mon gin tonic en canette frémit quand je le porte à mes lèvres pour prendre une gorgée fraîche et acidulée. Le goût de mes premières vacances avec Tom, dans un village de pêcheurs sur la côte basque en 2005. Le matin, on nageait les 700 mètres qui nous séparaient d'une petite île pour aller faire l'amour sur les plages secrètes. L'après-midi, on s'asseyait au bar et on buvait des gin toniques amers, très alcoolisés. On regardait les nuées de footballeurs du dimanche faire des parties à 25 contre 25 sur le sable mouillé. Je prends une autre gorgée, puis une troisième. La canette est à moitié vide, mais ce n'est pas grave. J'en ai trois autres dans le sac plastique à mes pieds. C'est vendredi, je n'ai pas le droit de culpabiliser de boire dans le train ? Oh, super, c'est le week-end. En route pour l'aventure. D'ailleurs, à en croire la météo, ça va être un très beau week-end. Un soleil radieux dans un ciel sans nuages. Avant, on aurait pris la voiture jusqu'à la forêt de Corlay, avec un pique-nique et des journaux. On aurait passé l'après-midi allongé sur une couverture à boire du vin, la peau tachetée par les rayons de soleil s'insinuant entre les feuilles des arbres. On aurait pu organiser un barbecue dans le jardin avec des amis, ou aller aux roses, sur les tables à l'extérieur. Laisser la chaleur nous rougir le visage au fil des heures. On serait rentré à pied en zigzagant, bras dessus, dessous, avant de s'endormir sur le canapé. Un soleil radieux dans un ciel sans nuages. Personne à voir, rien à faire. Vivre comme je le fais, c'est plus difficile l'été avec ces journées si longues, si peu d'obscurité ou dissimulée, alors que les gens sortent se promener. Le bonheur est si évident que ça en est presque agressif. C'est épuisant. Et ça vous culpabilise de ne pas vous y mettre, vous aussi. Le week-end s'étire devant moi. 48 longues heures à occuper. Je porte à nouveau la canette à mes lèvres, mais elle est déjà vide.
Le réveil seule, tu resterais bien au lit. T'avais rêvé d'une vie, mais sûrement pas celle-ci. D'aller te pointer, te chômer ou te faire exploiter. Mais t'es comme tout le monde, t'as tes factures à payer. Pris dans le train sans connaître la cause, t'as renoncé, t'es blasé, tu te contentes du morose. Pourtant tu le sais pas, mais tu tournes dans un film. Le plus beau, le plus grand, le meilleur des castings. Tu sors de chez toi, t'es filmé. Au parking, t'es filmé. Dans le métro, t'es filmé. Au boulot, t'es filmé. Au resto, t'es filmé. À la banque, t'es filmé. Sur la route, t'es flashé, partout, t'es filmé. Sur le net, tes pieds copiés, imités. Et quoi qu'il arrive, t'es engagé, filmé. Alors souris, ça sert à rien d'avoir peur. Il est temps de libérer tes talents d'acteur.
Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure.
Le synopsis, tu as quelques doutes? T'inquiète, il suffit de consulter ton Facebook. Quoi? T'as peur de pas être à la hauteur? C'est du beurre, le dialoguiste s'appelle Twitter. Pour ce qui est du décor, te prends pas la tête. Il couvre presque toute la planète. En revanche, y'a du taf au montage. Le réel veut de l'action, des arrêts sur image. Va falloir se lâcher, être sauvage, être intense. On retiendra surtout les scènes de violence. Pas de chichi, pas d'ennui, du ralenti, de l'arty. Les plans larges, on oublie, on veut de la vraie vie. Y'aura du sexe, du sang, des jeux de pouvoir. Tout ce que tu n'as jamais rêvé de voir. Alors rentre dans ta peau d'acteur studio. Incarne ton héros, ça tourne magnéto.
Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure. Besoin de fiction, vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure. Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure.
Coupé.
Lundi 8 juillet 2013. Matin. Quel soulagement d'être de retour dans le train de 8h04. Non, ce n'est pas que je sois particulièrement impatiente d'arriver à Londres pour commencer ma semaine. Je n'ai même pas envie d'être à Londres, du tout. Non, j'ai juste envie de me caler au fond du siège en velours doux, avec la tiédeur du soleil à travers la vitre. La voiture qui balance d'avant en arrière, d'arrière en avant, le rythme rassurant des roues sur les rails. Quand je suis là à regarder les maisons qui bordent la voie, il n'y a presque nulle part où je préférerais être. Sur ce tronçon, il y a un feu de signalisation défectueux à la moitié du trajet. Enfin, j'imagine qu'il doit être défectueux parce qu'il est toujours presque rouge. On s'y arrête quasiment tous les jours, parfois quelques secondes, parfois plusieurs minutes d'affilée. Si je suis installée dans la voiture D, comme presque à chaque fois, et si le train s'arrête au feu, comme presque à chaque fois, j'ai une vue parfaite sur ma maison favorite près du rail. Celle qui se trouve au numéro 15. Elle ressemble à toutes les autres maisons qui longent la voie. C'est une demeure victorienne, mitoyenne, à étages, avec un étroit jardin bien entretenu, hein, qui s'étend sur 6 mètres jusqu'au haut grillage. Un court no man's land sépare ce dernier des rails. Je connais cette maison par cœur. J'en connais chaque brique, la couleur des rideaux de la chambre du premier, beige avec un motif bleu foncé. Je sais que la peinture du cadre de fenêtre de la salle de bain s'écaille et qu'il manque 4 tuiles sur une portion du toit côté droit. Je sais que les chaudes soirées d'été, les habitants de cette maison, Jason et Jess, sortent parfois par la fenêtre à guillotine pour aller s'asseoir sur un balcon improvisé. Un bout de toit qui avance là, où ils ont fait agrandir la cuisine. C'est un couple. Parfait. Un couple en or. Lui, il a des cheveux bruns et une carrure sportive. Il est fort, protecteur et doux. Il a un rire contagieux. Elle, c'est une femme minuscule, une vraie beauté, très pâle, avec des cheveux blonds coupés courts. Elle a le visage qu'il faut pour ça, avec des pommettes saillantes parsemées de petites taches de rousseur et une mâchoire fine. Pendant qu'on est coincé au feu, j'essaye de les repérer chez eux. Le matin, Jess est souvent dehors pour prendre son café, surtout l'été. Parfois, quand je l'aperçois, j'ai l'impression qu'elle peut me voir elle aussi et qu'elle me regarde droit dans les yeux. Ça me donne envie de lui faire un signe, mais j'oserais jamais. Je vois moins souvent Jason parce qu'il est régulièrement en déplacement pour le travail. Même quand ils ne sont pas là, je pense à ce qu'ils doivent être en train de faire. Peut-être que ce matin, ils sont tous les deux en jour de congé. Qu'elle a fait la grasse matinée au lit pendant qu'il lui prépare le petit déjeuner. Ou peut-être qu'ils sont allés courir ensemble, parce que c'est un couple à faire ce genre de choses. Moi, un peu plus vite qu'à l'accoutumée, et lui à moitié moins, pour qu'on puisse rester à côté. Peut-être que Jess est à l'étage, dans la chambre d'amis, occupée à peindre. Ou peut-être qu'ils prennent une douche ensemble. Ses mains à elle appuyées contre le carrelage au mur, tandis qu'il lui pose les siennes sur ses hanches.
Dis-moi que seul chez toi, quand le soleil se couche, que tu me vois sourire, que tu m'entends penser à toi, que le souvenir de nos deux corps nus qui se touchent fait que tu te sens encore tout près de moi, que la séparation, bien que nécessaire, n'est que pause pour laisser à la raison le temps de comprendre chacun des mystères qui unit deux êtres de passion, que tu te répètes comme une petite prière, que notre amour sera la plus belle des maisons. Je sais, oui, que je devrais simplement me taire, laisser défiler encore quelques saisons. Mais à quoi bon attendre le triste anniversaire de cette étrange et trop douce séparation? J'ai fini par dire à mon cœur de se taire, et depuis j'essaie d'aimer d'autres garçons, mais aucun d'entre eux n'arrive à me plaire, malgré la grande beauté de leurs chansons. Et je me répète comme une petite prière que notre amour sera la plus belle des maisons. Et je me répète comme une petite prière que l'amour sera la plus belle des maisons.
Soir. Je tourne le dos au reste de la voiture et je me tourne légèrement contre la vitre pour ouvrir une petite bouteille de chenin blanc que j'ai achetée dans une épicerie à la gare de Houston. Il n'est pas frais, mais ça fera l'affaire. J'en verse dans un gobelet en plastique avant de revisser le bouchon et de ranger la bouteille dans mon sac à main. C'est mal vu de boire dans un train le lundi, à moins d'être accompagnée, ce qui n'est pas mon cas. Je retrouve souvent des visages familiers dans ce train, des gens que je vois toutes les semaines, qui vont et qui viennent eux aussi. Je les reconnais, et j'imagine qu'ils me reconnaissent aussi. Cependant, je ne sais pas s'ils sont capables de savoir qui je suis. Oh, c'est une superbe soirée, l'air est chaud, sans être étouffant. Le soleil entame sa descente paresseuse vers l'horizon. Les ombres s'agrandissent et la lumière commence tout juste à orner les arbres de traces dorées. Mon train roule avec fracas. Nous passons en un rien de temps devant chez Jason et Jess. Ils se fondent dans un tourbillon de soleil couchant. Parfois, mais pas souvent, j'arrive à les voir de ce côté des rails aussi. s'il n'y a pas d'autres trains sur la voie opposée ou si on avance assez lentement. Je peux parfois les entrevoir dehors, sur le balcon. Moi, sinon, comme aujourd'hui, je les imagine. Jess est assise sur le balcon, les pieds sur la table et un verre de vin à la main. Jason est derrière elle, ses mains posées sur ses épaules. J'arrive à ressentir le poids de ses mains, rassurant, protecteur. Parfois, je me surprends à essayer de me souvenir de la dernière fois que j'ai eu un contact physique, un tant soit peu significatif, avec quelqu'un. La dernière fois qu'on m'a offert une simple étreinte, ou même qu'on m'ait serré la main avec affection. Et mon cœur se crispe.
J'ai encore pleuré 2 heures sur ta boîte de petit beurre, la fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire, ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer, et elle a tellement insisté. Oh oui, mais je suis jalouse. Oui, c'est ça, tout simplement jalouse. Chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage, elle fait si bien la cuisine. Je lui ferai bien mon potage à la nitroglycérine. La bile et le glutamate se chamaillent dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois, oh, je ne mangerai plus chinois. Le soir, te parler de temps en temps, sourions, serrons les dents. C'est vrai, c'est assez normal, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vais pas faire un scandale, pour vous deux c'est important. Mais c'est l'art de ma jalousie, de ne pas savoir te dire oui, ça me fait un peu bizarre.
Mardi 9 juillet 2013, matin. La pile de vêtements de la semaine dernière est toujours là, plus poussiéreuse et mélancolique encore. J'ai lu quelque part que, quand on se fait écraser par un train, la simple force du choc peut vous arracher vos vêtements. Ce n'est pas une mort si inhabituelle d'ailleurs. 200 à 300 par an. Il paraît que c'est moins qu'une tous les 2 jours. Je ne sais pas combien d'entre elles sont accidentelles. Quand le train passe lentement près de la pile, j'examine attentivement les vêtements à la recherche d'une trace de sang, mais je repère rien. Le train s'arrête au feu, comme à son habitude. Jess est debout sur la terrasse devant la porte-fenêtre, elle est pieds nus et elle porte une robe rose vif. Elle se retourne vers l'intérieur de la maison. J'imagine qu'elle parle à Jason qui doit être en train de préparer le petit déjeuner. Je garde mes yeux fixés sur Jess et sa maison, tandis que le train redémarre lourdement. Je ne veux pas voir les autres maisons, surtout pas celle qui est à 4 portes plus loin, celle qui était la mienne autrefois. J'ai vécu 5 ans au numéro 23, éperdument amoureuse et complètement misérable. Je ne peux plus la regarder. C'était ma première maison. Pas celle de mes parents, pas une colocation avec d'autres étudiants. Mon premier chez moi. Je suis incapable de la regarder. Enfin si j'ai envie. Mais je peux pas. J'y arrive pas. J'essaye de me retenir. Chaque fois, je me dis de ne pas la regarder et chaque fois, je regarde. Je ne parviens pas à m'en empêcher, même s'il n'y a rien que j'ai envie de voir, même si ce que je risque de voir ne pourra que me faire du mal, même si je me souviens encore clairement de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les rideaux couleur crème de la chambre du premier disparaître, remplacés par un tissu rose pâle, même si je me rappelle encore de la douleur qui m'a traversée quand j'ai vu Anna arroser le rosier accolé à la barrière dans le jardin, son t-shirt tendu au maximum sur son ventre rebondi. Je me suis mordu la lèvre si violemment qu'elle a saigné. Je ferme bien fort les yeux et je compte jusqu'à 10, 15, ben voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Le train entre dans la gare de Whitney, puis repart et prend de la vitesse tandis que la banlieue laisse place au nord crasseux de Londres. Les rangées des maisons remplacées par des ponts tangués, des bâtiments vides aux fenêtres cassées. Plus on se rapproche du Houston, plus je suis angoissée, la pression monte. Comment se passera cette journée? Il y a un affreux entrepôt en béton à droite des rails, à peu près 500 mètres avant d'entrer dans la gare. Sur le côté, quelqu'un a peint une flèche qui désigne la gare, avec le mot « fin du voyage ». Je repense au paquet de vêtements au bord des rails et ma gorge se serre. Le train que je prends le soir est celui de 17h56. Il est un peu plus lent que celui du matin. Le trajet prend 1 h 1 min. 7 minutes de plus que celui du matin, alors qu'il ne marque pas d'arrêt supplémentaire. Ça m'est égal. Parce que si je suis pas franchement pressée d'arriver à Londres le matin, je suis pas plus pressée de rentrer à Ashbury le soir. C'est pas simplement parce que c'est Ashbury. Même si ça peut suffire en soi, je veux dire. Elle n'est ni mieux ni pire qu'une dizaine d'autres villes similaires. Un centre-ville bourré de cafés, de boutiques de téléphones portables, de magasins d'articles de sport, quelques quartiers d'habitation périphérique et au-delà du royaume des complexes de cinéma et des hypermarchés gigantesques. J'habite dans un quartier élégant, si on veut. Récent, si on veut, situé à la jonction entre le centre et la banlieue résidentielle. Mais ce n'est pas chez moi. Chez moi, c'est la maison victorienne mitoyenne près de la voie ferrée, celle dont j'étais copropriétaire. À Ashbury, je ne suis pas propriétaire. Je ne suis même pas locataire. Je suis hébergée dans la seconde petite chambre du duplex insipide de Cathy, assujettie à sa bonne grâce. Cathy et moi, nous étions amies à l'université. Enfin, plus ou moins, car en réalité, nous n'avons jamais été très proches. Elle vivait dans la chambre en face de la mienne en première année, et nous avions les mêmes cours. Nous sommes donc mutuellement devenus alliés pour affronter les épreuves de ces premières semaines de fac, avant de rencontrer des gens avec qui nous avions plus de choses en commun. Nous ne nous sommes presque pas vus la première année, et plus du tout lorsque nos études furent terminées, sauf pour un mariage de temps à autre. Mais quand j'ai eu besoin d'aide, il s'est trouvé qu'elle avait une chambre à louer. Alors ça m'a paru logique. J'étais certaine que ça ne durait pas plus de 2 ou 3 mois, 6 au maximum, et je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'avais jamais vécu toute seule. J'étais passée de mes parents à mes colocataires, puis à Tom, et c'était une idée qui me terrifiait. Alors j'ai accepté. C'était il y a 2 ans maintenant. Bon, ce n'est pas non plus affreux, hein. Cathy est quelqu'un de gentil, elle tient à ce qu'on remarque sa gentillesse, du coup elle en fait des tonnes. C'est le trait de caractère qui la définit. Et elle a besoin de se l'entendre dire souvent, presque chaque jour, ce qui peut s'avérer fatigant. Mais c'est pas si mal. Y a pire défaut chez un colocataire. Non, ce n'est pas Cathy. C'est même pas Ashbury qui m'affecte le plus dans ma nouvelle situation. Et je continue de dire « nouvelle » alors que ça fait presque 2 ans. C'est la perte de tout contrôle. Dans l'appartement de Cathy, je me sens toujours un peu comme une invitée qui ne serait pas loin de commencer à abuser de son hospitalité. Je le sens dans la cuisine, quand on se marche sur les pieds au moment de préparer le dîner. Je le sens dès que je m'assois à côté d'elle sur le canapé et que je lorgne sur la télécommande bien ancrée dans sa main. Le seul espace où je me sens vraiment chez moi, c'est dans ma minuscule chambre, dans laquelle on a entassé un lit, 2 places et 1 bureau, avec à peine de quoi circuler entre les deux. Bon, c'est plutôt confortable. Mais c'est pas un endroit dans lequel on a envie de passer du temps. Alors je traîne dans le salon ou la cuisine, mal à l'aise mais impuissante. J'ai perdu le contrôle d'absolument tout, même de tout ce qui se passe dans mon cerveau.
Moi je mens passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent. Je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs elle a pas une si grosse. Enfin j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus les pas si beau. À mes amis rien que je mens. À mes amants j'ai tout appris. Finalement me disait Johnny que je t'aime. Toi t'as du talent hein. À moi, à vous, merci. Moi je m'en fiche, j'ai plus quand je me suis dit. Vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah il s'en remet, travail, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis rien que je mens à mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois, je voudrais fuir, partir de là, être seule sur une île. Je m'en mets pas à toi, parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi, je mens même si ça vous plaît pas bien, vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas. Laissez-moi tranquille, ne me touchez pas. Sans mon bon vivant souffert. Mes bonbons, c'est pas mon vivant. Ah bah moi je m'en plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de faire remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement.
Mercredi 10 juillet 2013. Matin. La chaleur s'intensifie. Il est à peine 8h30 et l'atmosphère est déjà étouffante, trop humide. Oh, j'aimerais bien qu'il y ait un orage. Mais le ciel est bleu pâle, insolent. J'essuie la pellicule de transpiration sur ma lèvre supérieure. Si seulement je m'étais rappelé d'acheter une bouteille d'eau. Moi, je ne vois pas Jason ni Jess ce matin. Moi, ça, c'est une vive déception. C'est bête, je sais. Je scrute la maison. Mais il n'y a rien à voir. Les rideaux sont ouverts au rez-de-chaussée, mais la porte-fenêtre est fermée et le soleil se reflète sur la vitre. La fenêtre à guillotine du premier est fermée, elle aussi. Peut-être que Jason est en déplacement. Il est médecin, je crois. Peut-être pour un grand organisme humanitaire international. Il est toujours de garde avec un sac de voyage prêt, rangé tout en haut dans l'armoire. S'il y a un tremblement de terre en Iran ou un tsunami en Asie, il laisse tout tomber, il attrape son sac et en quelques heures à peine, il est à l'aéroport de Heathrow, paré à embarquer pour aller sauver des vies. Jess, avec ses imprimés fantaisie et ses converses, sa beauté, son allure, bon, elle travaille dans la mode. Ou peut-être pour un label de musique. Ou dans la publicité. Elle pourrait être styliste ou photographe. Elle peint très bien aussi. Elle a un excellent sens artistique. Je la vois dans la chambre d'amis avec la musique de fond, la fenêtre ouverte, un passant à la main et une énorme toile appuyée contre le mur. Elle y reste du matin jusqu'à minuit. Alors Jason évite de la déranger quand elle travaille. Bon, évidemment, je la vois pas. Je sais pas si elle peint ou si Jason a un rire contagieux ou si Jess a des pommettes saillantes. Je peux pas voir son visage d'ici. Je n'ai jamais entendu la voix de Jason. Je les ai jamais vus de près. Ils ne vivaient pas dans cette maison quand j'habitais plus bas dans la rue. Ils ont emménagé après mon départ il y a 2 ans. Je sais pas quand exactement. Je crois que j'ai commencé à les remarquer au cours de l'année dernière. Peu à peu. Les mois ont passé et ils sont devenus importants pour moi. Je sais pas non plus en fait comment ils s'appellent. Alors j'ai dû les baptiser moi-même. Jason parce qu'il est beau comme une star de cinéma britannique. Pas un Johnny Depp ou un Brad Pitt, mais un Colin Firth ou un Jason Isaac. Et Jess, ben ça va bien avec Jason. Ça va bien avec elle. C'est parfait pour elle, jolie et insouciante. Ils vont bien ensemble. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ça se voit qu'ils sont heureux. Ils sont comme moi avant, avec Tom et moi, il y a 5 ans. Ils sont tout ce que j'ai perdu et tout ce que je voudrais être.
Si je te disais que je n'ai pas pleuré, je me vanterais et tu te moquerais de moi. Que veux-tu que j'y fasse? En vérité, plus je vais, plus je m'attache à toi. Si je te disais que j'ai pu t'oublier, je mentirais et tu ne croirais pas. Que veux-tu que j'y fasse? En vérité, plus j'essaye et moins j'y crois. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. À présent que tu n'as plus rien à m'offrir, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, si j'arrive à ne pas m'en souvenir, si tu me disais de ne plus y penser, et même si je voulais pour te faire plaisir, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, je ne sais plus si je marche ou si je respire. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. En vérité, si je sais que je ne me trompe pas, si l'on se disait de tout se pardonner, et même si je pouvais pour me le faire comprendre, que veux-tu que j'y fasse? En vérité, je n'ai personne pour m'entendre. Je sais que je t'aime, mais c'est tout. Je sais que je t'aime, mais c'est tout.
Chemisier est trop serré. Les boutons sont tirés au maximum devant ma poitrine et j'ai des auréoles de transpiration sous les bras. J'ai les yeux et la gorge irrités. Ce soir, je veux pas que le voyage s'éternise. J'ai envie de rentrer, de me déshabiller et de sauter sous la douche pour être là où personne ne me verra. J'observe l'homme assis en face de moi. Il doit avoir à peu près mon âge, entre 30 et 35 ans, avec des cheveux bruns grisonnants. Il a le teint cireux. Il porte un costume, mais il a enlevé sa veste pour la poser sur le siège à côté de lui. Il a un MacBook, tout fin, ouvert devant lui. Il tape lentement. À son poignet droit est accrochée une montre argentée au large cadran. Elle semble onéreuse. Peut-être une Breitling. Il se mordit la joue. À l'intérieur, stressé peut-être. Ou alors il réfléchit profondément. Il rédige un email important à un collègue de la branche de New York, où il compose minutieusement un message de rupture pour sa petite amie. Il soulève soudain les yeux et nos regards se croisent. Il m'étudie rapidement, s'arrête sur la petite bouteille de vin posée sur la tablette qui nous sépare. Il se détourne en faisant l'amour. Je crois qu'il est dégoûté. Il me trouve répugnante. Je ne suis plus la fille que j'étais. Je ne suis plus désirable. Je suis repoussante, il faut le croire. C'est pas seulement que j'ai pris du poids ou que mon visage est bouffi par l'alcool et le manque de soleil. C'est comme si les gens pouvaient lire en moi les ravages de la vie. Ils le décèlent sur mon visage, à la manière dont je me tiens, dont je me déplace. Un soir la semaine dernière, je suis sortie de ma chambre pour aller me chercher un verre d'eau. J'ai entendu Cathy parler à Damien, son petit ami, dans le salon. Je me suis arrêtée dans le couloir pour écouter. Non mais c'est la solitude, disait Cathy. Non mais je m'inquiète beaucoup pour elle. Ça l'aide pas de rester seule tout le temps. Puis elle a ajouté. Tu pourrais pas trouver quelqu'un, au travail peut-être, ou dans ton club de rugby? Et Damien a répondu. Pour Rachel? Non mais je veux pas être méchant, Cathy, mais je suis pas sûre de connaître quelqu'un d'assez désespéré pour ça.
Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là?
Oh ça va, tu vas pas nous gonfler.
Qu'est-ce qu'il y a Guy, si t'as quelque chose à me dire?
Bah hier t'étais pas bourré.
Ouais, t'étais pire.
Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Oh putain merde, ma caisse!
Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi.
T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba.
J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges.
Et en plus,
surprise,
dans ton lit ça bouge.
Sur ce coup la manne, t'as aidé un homme.
T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon.
T'as du style, t'as du style, t'as du style et mon frère.
Quand tu vois d'autres, tu ramènes dans la bombe nucléaire.
Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers.
La tête dans le cul, cul dans le brouillard.
Les gars, désolé pour hier.
Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers.
J'arrête de boire, hier c'était la dernière. Fille remercier 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de cahier, de saké.
T'as l'œil, il part en vrille.
Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire?
Fallait mani mani mani, et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani mani mani, et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave.
Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas les gars.
Bah, t'étais grave, hein.
T'as pété ton câble.
Souviens-toi.
Eh oh, t'es monté sur le chapiteau.
Accroché au cordage.
T'as failli t'aplatir comme un blaireau.
Eh oh, tu voulais pas redescendre.
Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre.
Désolé pour hier soir,
d'avoir fini à l'envers.
La tête dans le cul, cul dans le brouillard.
Les gars, désolé pour hier.
Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers.
J'arrête de boire, hier c'était la dernière.
Fallait mani 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 et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani 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 et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave.
Me voilà donc fin prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé.
Dans ton canapé, on est bien.
À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier.
Eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ton verre d'eau?
C'est l'année fatidique, allez, on va se taper l'apéro.
Eh oh,
allez, mani, mani, bouge tes fesses. T'as promis à tes tigres, il faut tenir ses promesses.
Ben, désolé pour ce soir, si je finis à l'envers.
Mali, on se retrouve au comptoir. Titi fête son anniversaire.
Et désolé pour ce soir.
Tu deviens grave.
La tête dans le cul, cul dans le brouillard.
Arrête l'alcool, tu deviens grave.
Désolé pour hier soir.
Arrête l'alcool, tu deviens grave.
Promis, j'arrête de boire.
Arrête l'alcool, tu deviens grave.
Mercredi 11 juillet 2013. Matin. Je tripote le pansement humide que j'ai à l'index. Je l'ai mouillé en lavant ma tasse après le petit déjeuner. Il me paraît sale. Et bon, il est encore propre de ce matin. Je veux pas l'enlever, parce que la coupure en dessous est trop profonde. Cathy n'était pas là quand je suis rentrée hier soir, alors j'ai sorti acheter 2 bouteilles de vin. J'ai bu la première, puis je me suis dit que j'allais en profiter de l'absence de Cathy pour me préparer un bon steak aux oignons et manger ça avec une salade verte. Un bon repas équilibré. Je me suis coupé le haut du doigt en éminçant les oignons. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer. Et puis, j'ai dû m'allonger ou perdre la notion du temps parce que quand je me suis réveillée, en entendant les voix de Cathy et Damien, ils s'écriaient comme si c'était dégoûtant que je me permette de laisser la cuisine dans cet état. Cathy est montée me voir, elle a frappé doucement à la porte et l'a entrouverte. Elle a passé la tête et elle m'a demandé si ça allait. Je me suis excusée sans être sûre de savoir de quoi je m'excusais. Elle a dit que c'était pas grave. Mais est-ce que je voulais bien ranger un peu ? Hein ? Parce qu'il y avait du sang sur la planche à découper, la pièce sentait la viande crue, le steak était toujours sur le plan de travail et il commençait à prendre une vilaine teinte grise. Damien ne m'a même pas saluée. Il s'est contenté de secouer la tête en me voyant avant de monter dans la chambre de Cathy. Quand ils sont partis se coucher, je me suis rappelé que je n'avais pas bu la seconde bouteille, alors je l'ai ouverte. Je me suis assise sur le canapé et j'ai allumé la télévision avec le son au minimum pour pas qu'ils l'entendent. Je ne me souviens pas de ce que j'ai regardé. À un moment, j'ai dû me sentir très seule. Ou très contente parce que j'ai eu envie de parler à quelqu'un. Ça a dû être un besoin irrépressible et je n'avais jamais personne à appeler, à part Tom. Il n'y a personne à qui j'ai envie de parler à part Tom. Oh, le journal d'appel de mon téléphone affiche que je l'ai appelé 4 fois. 23h02, 23h12, 23h54 et minuit 9. À en juger la durée des appels, j'ai laissé 2 messages. Il a peut-être même répondu, mais je ne me souviens pas lui avoir parlé. Je me souviens du premier message par contre. Je crois que je lui ai dit simplement de me rappeler. C'est peut-être ce que j'ai dit dans les deux, d'ailleurs. Mais c'est pas si grave que ça. Le train sursaute avant de s'arrêter au feu rouge. Je lève les yeux. Jess est assise sur le balcon, elle boit une tasse de café. Les pieds appuyés contre le rebord de la table, elle a la tête en arrière pour prendre le soleil. Derrière elle, je crois voir une ombre. Quelqu'un bouger, Jason ? J'ai soudain envie de le voir, d'entreapercevoir son beau visage. J'ai envie qu'il sorte et qu'il vienne se mettre derrière elle, comme il fait d'habitude, et qu'il lui embrasse le haut du crâne. Il sort pas. Elle baisse la tête. Ah, il y a quelque chose dans sa manière de mouvoir aujourd'hui qui semble différent. Elle est plus lourde, comme accablée. J'essaye d'encourager Jason à la rejoindre par la force de mon esprit. Mais avec un soubresaut, le train repart et il n'est toujours pas apparu. Elle est seule. Et voilà que, sans y penser, je me retrouve à regarder ma maison. Je ne peux pas détourner mes yeux. La porte coulissante est ouverte, la cuisine est baignée par la lumière du soleil. Je suis incapable. Vraiment incapable de savoir si j'assiste réellement à cette scène ou si je l'imagine. Est-ce qu'elle est là, devant l'évier, à faire la vaisselle ? Est-ce qu'il y a bien une petite fille assise dans un transat pour bébé posé sur la table de la cuisine ? Je ferme les yeux et laisse les ténèbres m'envahir et grandir pour se transformer. La tristesse se change en quelque chose de pire, un souvenir, une vision d'hier. Je ne lui ai pas seulement demandé de m'appeler. Je me souviens maintenant, je pleurais et je lui ai dit que je l'aimais encore. Que je l'aimerais toujours. Je t'en prie, Tom. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Tu me manques. Oh non, 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 non. Non, il faut que je l'accepte. Rien ne sert de vouloir repousser ce souvenir. Oh, je vais me sentir mal toute la journée. Ça viendra par vagues. D'abord de plus en plus forte, puis calme, et puis encore forte, 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 forte. L'estomac qui se tord, l'angoisse de la honte. Oh, la chaleur qui monte au visage, fermant les yeux fort, comme si ça pouvait suffire à tout faire disparaître. Je passerai la journée à me dire « Non, mais c'est pas si grave, hein !» Ce n'est pas la pire des choses que j'ai faites. C'est pas comme si j'étais tombée en public, comme si j'avais crié sur un inconnu dans la rue. Ce n'est pas comme si j'avais humilié mon mari à un barbecue d'été en hurlant des insultes à la femme d'un de ses amis. C'est pas comme si on s'était disputé un soir à la maison et que j'avais attrapé un club de golf et que j'avais fait sauter un bout de plâtre sur le mur d'un couloir devant la chambre. C'est pas comme revenir au travail après une pause déjeuner de 3 heures, de tituber dans les bureaux sous le regard de tout le monde, avec Martin Mills qui m'entraîne à l'écart. « Je crois que tu devrais rentrer chez toi, Rachel. » On se rassure comme on peut.
Voici le titi parigo qui pillave, attire l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, chronomètre les pulsions du jour. En vitesse en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulée en apnée, ça y est, c'est parti. Rampe de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pression. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, voilà ouais, ma finesse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de vomi. Luke Sky et Johnny Walker, nous nous embourbons. Faut colmater le foire à fond. Y'a une fuite dans la vessie spatiale de la NASA. J'ai la nausée, trop de kryptonique, hey, de gin tonic, hey, éjecté du cockpit. Exit direct vite et mon beat va te mettre en orbite. La bière de Mars attaque martien, un petit verre. Champagne, Dark Val, Star, sabre au laser. Le Boulawan, Kenobi, passe en Sibir, se passe sur CD-ROM. Pulvérise l'atmosphère comme Arletty. Boom, zoom, gros plan sur le clown. Un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes. Boom, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes. Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. J'avance, c'est pas de la mentalo.
J'avance,
c'est du rock'n'roll.
J'avance,
c'est le vrai son parigo. La devise,
sexe, accordéon et alcool.
J'avance,
c'est pas de la mentalo.
J'avance,
c'est du rock'n'roll.
J'avance,
c'est le vrai son parigo. La devise,
sexe, accordéon et alcool.
C'est pas de la mentalo.
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 Je suis un fossile antique de l'âge néotilique. Un rescapé du bal musette sur internet. Bok à l'inter, culti Star Trek. Astéroïde, vulgaire rejoint, camouflage, soufflette. J'enfoule le boulot, autant que du goulot. J'suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau, ma vie, mes locaux. Coco, j'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac. J'suis bac, plus 5 et licence 4. Un grand sportif, garçon, un ballon. Sors le carton de rouge, me mets pas sur la touche, absorbe comme un tampon. Serre à la louche sur la tourtelle, j'ai fait le grand pont. Tu peux toujours me décrocher du comptoir, sors mes crampons. Un vétéran hors jeu, sorti des vestiaires. Entre l'agneau de Saturne et la planète Jupiter. On barre le pénalty, tout le monde part de mon transfert. Au Bayern de Munich pour la fête de la bière.
Alerte rouge, un connard a perdu le contrôle. Ce qui est une hiver à pied pour le nez vert d'oignon. Le contrôle, anti-dopage, je suis bon pour la touche. Menton, ta colémie a crampé le ballon d'un souche.
La partie finie, deux à casse et zéro pour un zéro. J'ai la barre transversale qui est plantée dans mon cerveau. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné.
Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété.
C'est pas de la mentalo. C'est du rock'n'roll. C'est vrai, ils sont parigo. La devise,
sexe, accordéon et alcool.
C'est pas de la mentalo. C'est du rock'n'roll. C'est vrai, ils sont parigo. La devise,
sexe, accordéon et alcool.
J'arrose tout le monde, ça finit toujours en dessous de table. Vote pour mon estomac en ballotage favorable. Je fais du mal aux colons, conquistador du terroir. Partout où je passe, s'établit un comptoir. De l'or du poireau, je veux que mon nez soit décoré. Commentaire au panthéon et je servirai de pilier né. Sous le signe du verso, j'étais pourtant bien parti. Mais tous mes atouts sont tombés à l'oubli. Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé. J'ai écrit cette chanson après une étude de marché. Je la dédicace à tous les alcooliques. C'est sûr qu'au moins en France, je serai un large public.
Soir. Je n'ai pas cessé de penser à Jess de la journée. J'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit à part ce que j'avais vu le matin. Mais qu'est-ce qui a pu me faire croire qu'il y avait un problème ? Je ne pouvais pas déceler son expression à une telle distance, mais en la regardant, j'ai eu le sentiment qu'elle était seule. Plus que seule. Abandonnée. C'est peut-être le cas. Il est peut-être en déplacement dans un pays exotique où il se précipite pour sauver des vies. Et il lui manque, et elle s'inquiète, même si elle sait qu'il n'a pas le choix. Mais bien sûr qu'il lui manque. Il me manque même à moi. Il est doué fort, comme un bon mari. Il forme une vraie équipe. J'en suis sûre, ça se voit. La force et ce côté protecteur qu'il dégage ne signifient pas autant qu'elle soit faible. Non, elle est forte à sa manière. Elle fait des déductions logiques qui laissent pantois d'admiration. Elle sait aller droit au cœur du problème. le disséquer et l'analyser en moins de temps qu'il n'en faut à d'autres pour dire bonjour. Quand ils sont de sortie, il lui prend souvent la main. Pourtant, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils se respectent et ils ne se rabaissent jamais. Oh, ce soir, je suis épuisée. Je suis sobre, 100% à jeun. Il y a des jours où je me sens tellement mal que j'ai besoin de boire. D'autres où je me sens tellement mal que j'en suis incapable. Aujourd'hui, la simple idée de l'alcool me retourne l'estomac. Et c'est un défi d'affronter la sobriété dans un train du soir, hein, surtout en ce moment par cette chaleur. Une fine pellicule de transpiration recouvre chaque centimètre carré de ma peau. L'intérieur de ma bouche me démange. J'ai les yeux irrités, peut-être à cause du mascara qui a coulé dans les coins. Mon téléphone se met à vibrer dans mon sac. Je sursaute. Deux filles assises de l'autre côté de la voiture me regardent et puis se retournent l'une vers l'autre pour échanger discrètement un sourire. Je sais pas ce qu'elles pensent de moi. Mais je me doute que c'est pas très positif. J'ai le cœur qui bat à tout rompre au moment où j'attrape le téléphone. Je sais que ça aussi, ce ne serait pas très positif. C'est peut-être Cathy qui va me demander, toujours avec une extrême gentillesse, si je veux bien laisser la bouteille de côté ce soir. Ou alors ma mère, pour m'annoncer qu'elle sera à Londres la semaine prochaine et me proposer de me rejoindre à mon bureau pour qu'on aille déjeuner. Je regarde l'écran. C'est Tom. J'hésite une seconde avant de décrocher. Rachel ? Pendant les 5 premières années où je l'ai connue, j'ai jamais été Rachel. Seulement Rach, parfois Shelley. Parce qu'il savait que je détestais ça et que ça le faisait rire de me voir m'agacer puis pouffer. Je pouvais pas m'empêcher. Hein. Dès qu'il riait, je riais aussi. Rachel, oui, c'est moi. Il a la voix pesante. Il paraît éreinté. Écoute, il faut que t'arrêtes ça, d'accord ? Je réponds pas. Le train ralentit, nous sommes presque au niveau de la maison, de mon ancienne maison. J'ai envie de lui dire « Sors, va te mettre sur la pelouse dans le jardin, laisse-moi te voir. » « S'il te plaît, Rachel, tu ne peux pas continuer de m'appeler comme ça en permanence. Il faut que tu te secoues. » J'ai une boule coincée dans la gorge, aussi dure qu'un caillou bien lisse. Je n'arrive pas à déglutir, je n'arrive pas à parler. « Rachel, tu m'entends ?» Je sais que ça va pas très fort, et pour toi, et ça, j'en suis désolée, vraiment. Mais je ne peux pas t'aider. Tous ces appels commencent vraiment à contrarier Anna, d'accord ? Je ne peux plus t'aider. Va aux Alcooliques Anonymes, s'il te plaît. S'il te plaît, Rachel. Vas-y ce soir, après le travail. J'enlève le pansement dégoûtant du bout de mon doigt, et j'observe la peau en dessous, pâle, ridée. Le sang séché écrasé au bord de mon ongle. J'enfonce le pouce dans ma main droite au centre de la coupure. Et je la sens se réouvrir avec une vive douleur, comme une brûlure. Je retiens mon souffle. Du sang commence à s'échapper de la plaie. De l'autre côté de la voiture, les filles me dévisagent, interdites. S'échapper. S'échapper. Une bulle d'un chuchotement hors du temps pour toi. Un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi. S'oublier dans les confinements. S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi. Je vous souhaite une bien belle fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve demain. Prenez soin de vous.